Montaigne sur la modération. Comme si notre toucher était vénéneux, nous corrompons en les manipulant les choses qui d'elles-mêmes sont belles et bonnes. Nous pouvons rendre la vertu vicieuse si nous l'étreignons avec un désir trop âpre et trop violent. Ceux qui disent que la vertu ne peut jamais être excessive, car alors il ne s'agit plus de vertu, ne font que jouer sur les mots. Le sage doit être appelé insensé, le juste injuste, s'ils font trop d'efforts pour atteindre la vertu même. C'est là une réflexion philosophique subtile. On peut aimer trop la vertu et commettre des excès au cours d'une action juste. C'est le sens de la parole divine « Ne soyez pas plus sages qu'il ne faut, soyez sages avec modération ». J'ai vu un grand personnage nuire à la réputation de la religion à force de se montrer religieux au-delà de toute mesure pour un homme de sa condition. J'aime les gens dont le caractère est tempéré, moyen. Le manque de modération, même pour le bien, ne m'offense pas, mais m'étonne, et je ne sais comment nommer cette attitude. Je trouve plus étrange que juste l'attitude de la mère de Pausanias, qui donna la première information sur son fils qu'on recherchait et lui jeta la première pierre à sa mort. De même pour le dictateur Postumius, qui fit mourir son fils, que l'ardeur de la jeunesse a jeté sur les ennemis avec succès, mais en outrepassant, le rêve aurait dû rester le sien. Je ne conseillerais pas, je ne suivrais pas non plus une vertu si féroce et qu'il faut payer si cher. L'archer dont la flèche va au-delà du but manque son coup tout comme celui qui ne parvient même pas à l'atteindre. Et mes yeux se troublent également que je les tourne brusquement vers une lumière vive ou vers l'obscurité. Dans Platon, Calliclès dit que l'excès de philosophie est dommageable et il conseille de ne pas s'y aventurer plus loin qu'il n'est utile. Il ajoute que, prise avec modération, elle est agréable et avantageuse, mais qu'à la fin, elle rend l'homme sauvage et vicieux. Dédaigneux des religions et des lois communes, ennemis de la conversation en société, des plaisirs humains et incapables de toute responsabilité politique, incapable de secourir autrui aussi bien que soi-même, bref, qu'il mériterait une bonne paire de claques. Et il dit vrai, car par ses excès, la philosophie a servi notre liberté naturelle et nous fait quitter, par d'importunes subtilités, le beau chemin bien droit que la nature nous a tracé. Le sentiment que nous avons envers nos femmes est tout à fait légitime. Et pourtant, la théologie ne laisse pas de le brider, de le restreindre. Il me semble avoir lu autrefois chez saint Thomas, en un passage où il condamne les mariages entre parents au degré défendu, cette raison parmi les autres. Il y a danger que ce sentiment que nous portons à une telle femme soit immodéré, car, si comme il se doit, l'affection maritale s'y trouve entière et parfaite, et qu'on la surcharge encore de celle qu'on doit à la parentèle, il n'y a guère de doute que ce surcroît emportera le mari bien au-delà des limites de la raison. Les disciplines qui règlent les mœurs des hommes, comme la théologie et la philosophie, se mêlent de tout. Il n'est pas d'action, si privée et si secrète soit-elle, qui échappent à leur connaissance et à leur règlement. Bien naïfs sont ceux qui plaident pour la liberté des femmes. Elles-mêmes laissent tripoter autant qu'on veut leurs avantages, alors qu'en médecine, la pudeur ne leur défend. Je veux donc, de leur part, apprendre ceci au mari, s'il s'en trouve encore qu'il soit trop acharné, à savoir que les plaisirs qu'ils éprouvent à approcher leurs femmes sont condamnables si la modération n'y est respectée, et qu'il y a là de quoi sombrer dans la licence et les débordements, tout comme lorsqu'il s'agit de plaisirs illégitimes. ces caresses impudiques auxquelles l'ardeur première nous incite dans les jeux de l'amour ne sont pas seulement indécentes envers nos femmes, mais dommageables pour elles. Qu'elles apprennent plutôt l'impudeur en d'autres mains. Elles sont toujours bien assez stimulées pour nos besoins. Je n'ai jamais pratiqué en ces matières que ce qui relève d'une éducation naturelle et simple. Le mariage est une liaison religieuse et sainte. Voilà pourquoi le plaisir qu'on en tire doit être un plaisir retenu, sérieux et mêlé à quelque sévérité. Ce doit être une volupté plutôt sage et consciencieuse. Et comme sa finalité principale est la procréation, il en est pour se demander s'il est permis de chercher encore à faire l'amour avec nos épouses lorsque nous ne pouvons pas espérer en obtenir de fruits, soit parce qu'elles ont dépassé l'âge, soit parce qu'elles sont déjà enceintes. Selon Platon, c'est un homicide. Certaines nations, et entre autres la mahométane, considèrent comme une abomination le fait de s'unir à une femme enceinte. D'autres condamnent de même les rapports durant les règles. Zénobie ne recevait son mari que pour une seule étreinte, et cela fait, elle le laissait courir tout le temps de sa conception, lui donnant seulement après la permission de recommencer. Bel et noble exemple de mariage. Platon emprunta à quelques poètes privés et affamés de ce plaisir-là le récit que voici. Jupiter fut pris un jour d'un désir si ardent envers sa femme que, ne pouvant attendre qu'elle eût gagné son lit, il la culbuta sur le plancher. Et dans la violence du plaisir qu'il en eut, il oublia les grandes et importantes résolutions qu'il venait de prendre avec les autres dieux en sa cour céleste. Il se vantait depuis qu'il avait éprouvé avec elle autant de plaisir cette fois-là que lorsqu'il l'avait dépucelée en cachette de ses parents. Les rois de Perse faisaient venir leurs femmes à leurs festins, mais quand le vin venait à les échauffer pour de bon et qu'il fallait lâcher la bride à la volupté, il les renvoyait dans leurs appartements pour qu'elles ne participent pas à l'assouvissement de leurs désirs débridés. Et il faisait venir à leur place des femmes envers lesquelles ils n'avaient pas la même obligation de respect. Tous les plaisirs et toutes les faveurs n'ont pas la même valeur pour tous les gens. Épaminondas avait fait emprisonner un garçon débauché. Pélopidas le pria de le mettre en liberté par faveur pour lui, mais il refusa, et il l'accorda à une fille de sa connaissance, qui le lui avait aussi demandé, disant que c'était là une faveur bonne pour une amie et pas pour un capitaine. Sophocle, quand il était collègue de Périclès dans la magistrature, voyant par hasard passer un beau garçon, s'écria « Oh, le beau garçon que voilà !» Ce serait bon pour tout autre qu'un magistrat qui doit avoir non seulement les mains mais aussi les yeux chastes, lui dit Périclès. À sa femme qui se plaignait de ce qu'il se laissait aller à aimer l'autre femme, l'empereur Elius Verus répondit qu'il le faisait par raison de conscience, le mariage étant un honneur et une dignité et non une occasion de folâtrer et lascive concupiscence. Et notre histoire ecclésiastique a conservé avec bonheur la mémoire de cette femme qui répudia son mari parce qu'elle ne supportait pas ses attouchements par trop insolents et dévergondés. Il n'est en somme aucune volupté, si légitime soit-elle, dans laquelle l'excès ou l'intempérance ne puisse nous être reprochée. Mais à vrai dire, n'est-ce pas un misérable animal que l'homme ? À peine est-il en son pouvoir, de par sa condition naturelle, de goûter un seul plaisir pur et entier, qu'il se met aussitôt en peine de le réprimer en raisonnant. Comme s'il n'était pas assez misérable, son habileté et ses efforts tendent à augmenter sa misère. Nous employons, dit Properce, notre habileté à augmenter la misère de notre sort. La sagesse humaine fait bien sottement l'ingénieuse en s'exerçant à réduire le nombre et la douceur des plaisirs qui sont les nôtres, de la même façon qu'elle parvient favorablement et habilement, grâce à ses artifices, à nous peigner et nous farder les mots pour nous en alléger la sensation. Si j'avais été le chef d'un parti religieux, j'eusse pris une autre voie plus naturelle et en somme celle de la vérité, commode et sainte, et j'eusse peut-être été assez fort pour lui imposer des bornes. Nos médecins spirituels et corporels, comme s'ils avaient lié complot entre eux, ne trouvent aucun autre moyen de guérison ni remède aux maladies du corps et de l'âme que par les tourments, la douleur et la peine. Les veilles, les jeûnes, les chemises de crin, les exils lointains et solitaires, les prisons perpétuelles, les verges et autres souffrances ont été institués pour cela. Mais à condition toutefois que ce soit de véritables souffrances, qu'il y ait en eux une amertume poignante et qu'il ne soit point, comme dans le cas d'un certain Gallio que l'on avait envoyé en exil en l'île de Lesbos, on fut averti à Rome qu'il s'y donnait du bon temps et que ce qu'on lui avait imposé comme une sanction tournait à son avantage. Du coup, on se ravisa, on le rappela auprès de sa femme, en sa maison, et on lui enjoignit de s'en tenir pour que la punition soit vraiment adaptée à ce qu'il s'était condamné à ressentir. Car pour celui dont le jeûne renforcerait la santé et l'allégresse, à qui le poisson serait plus appétissant que la viande, ce ne serait plus alors des remèdes salutaires. Pas plus que dans l'autre médecine, celle des corps. Les drogues n'ont d'effet pour celui qui les prend avec appétit et plaisir, car l'amertume et la difficulté sont des conditions favorables à leur action. Celui qui prendrait la rhubarbe comme une drogue familière en gâcherait l'usage. Il faut que ce soit quelque chose qui blesse notre estomac pour le guérir. Et ici, l'on voit que la règle commune, qui veut que les choses guérissent par leur contraire, est en défaut, car c'est le mal qui guérit le mal. Cette façon de voir se rapporte à cette autre très ancienne, qui consiste à croire qu'il est agréable au ciel et à la nature de nous voir nous massacrer, nous entretuer, opinion d'ailleurs universellement adoptée par toutes les religions. Du temps de nos pères encore, Amurra, lors de la prise de l'isthme de Corinthe, immola 600 jeunes hommes grecs à l'âme de son père, afin que ce sang servît à favoriser l'expiation des péchés du trépassé. Et dans les nouvelles terres découvertes à notre époque, encore pures et vierges auprès des nôtres, cet usage des sacrifices est communément admis. Toutes leurs idoles s'abreuvent de sang humain, non sans de multiples exemples d'horribles cruautés. On brûle vives les victimes, on les retire à demi brûlées du brasier pour leur arracher le cœur et les entrailles. D'autres, et même des femmes, sont écorchées vives, et on en revêt d'autres avec ces peaux sanglantes et on leur en fait des masques. Et les exemples de courage et de résolution ne manquent pas. Ces pauvres gens que l'on va sacrifier, vieillards, femmes, enfants, vont eux-mêmes quêter les aumônes pour les offrandes de leurs sacrifices et se présentent à cette boucherie en chantant et dansant avec les assistants. Les ambassadeurs du roi de Mexico, pour faire sentir à Fernand Cortés la grandeur de leur maître, après lui avoir dit qu'il avait 30 vaisseaux dont chacun pouvait rassembler 1000 combattants et qu'il résidait dans la plus belle et la plus forte ville qui soit sous le ciel, ajoutèrent qu'il pouvait sacrifier aux dieux 50 000 hommes par an. Et on dit en effet qu'il entretenait la guerre avec certains grands peuples voisins, non seulement pour l'entraînement de la jeunesse de son pays, mais surtout pour avoir des prisonniers de guerre disponibles comme victimes pour ses sacrifices. Et ailleurs, en une certaine ville, en l'honneur de la venue du dit Cortés, on sacrifia 50 hommes d'un seul coup. Et je raconterai encore ceci. Certains des peuples qui avaient été vaincus par Cortés lui envoyèrent des messagers pour lui dire qu'ils le reconnaissaient comme leur maître et tâchaient d'obtenir son amitié. Ils lui présentèrent pour cela 3 sortes de présents. « Seigneur, voilà 5 esclaves. Si tu es un dieu cruel qui se repaît de chair et de sang, mange-les, et nous t'en emmènerons d'autres. Si tu es un dieu bienveillant, voilà de l'encens et des plumes. Si tu es un homme, prends les oiseaux et les fruits que voici. »